et bienvenue à Je vais au ciné, votre émission sur le cinéma tous les lundis à 14h. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Mickaël.
Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bon Noël.
Oui, et qu'on a bien mangé la dinde.
Et les châtaignes.
Et les châtaignes. Et avec moi aussi, j'ai Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
J'espère j'ai rien, que vous... j'ai pas de phrase pour rebondir.
T'as pas... Non, t'as rien.
Non, j'ai été pris au dépourvu par l'improvisation magistrale de Mickaël.
Ah ouais, franchement, celle-là, cette improvisation, je sais pas où je l'ai sortie, hein, franchement.
Et aujourd'hui, on va parler de nos tops et de nos flops de l'année 2019. Alors Antoine, tu vas commencer et puis tu vas nous parler de tes tops et de tes flops.
Alors, je vais commencer par mon top 3, donc les films que j'ai préférés cette année. Donc ça commence par Le Traître de Marco Bellocchio, film qui est sorti en fin d'année, là, qui dure 2h30. Donc je vais vous raconter vite fait l'histoire. Donc en 1980, une guerre interne éclate au grand jour à Palerme, en Sicile. Les Corléonais, dirigés par Toto Riina, veulent faire main basse sur la ville en supprimant les autres clans, les amis des autres clans et aussi les amis des amis des autres clans. Tommaso Buscetta, joué par Pier Francesco Favino, moi je suis aussi bon en italien qu'en anglais.
T'as du mal à le cracher celui-là. Hein.
Fuit au Brésil, pays dont sa femme est originaire. Là-bas, il se fait arrêter, extrader, et afin de ne pas se faire tuer par le clan de Riina, va collaborer donc avec le juge Falcone afin de faire tomber Toto Riina. Donc l'histoire, je ne sais pas si ça vous parle, vous connaissez sûrement au moins l'attentat du juge Falcone. Là,
qui oui, ça me dit vaguement quelque chose.
Parle. Bon, c'est les années 90, ouais. Moi je me souviens. Et un film que moi j'ai trouvé magistral, 2h30, j'ai pas vu le temps passer. Et c'est surtout, j'ai eu un flash en revoyant, enfin, ce film m'est revenu quand j'ai regardé le film de Scorsese. On revient toujours au même. Parce que je trouvais que ce qui était foiré dans
The Irishman, pour ceux qui n'ont pas suivi.
Ouais. Je trouvais que ce qui était foiré dans le film de Scorsese, bah, c'était réussi. Si déjà le film il fait 2h30, donc c'est presque un court-métrage par rapport au film de Scorsese. Il va à l'essentiel. Il s'étend pas, il cherche pas à rajeunir ses personnages d'une méthode artificielle. J'ai trouvé qu'il y avait même, d'un point de vue de mise en scène, des idées que j'avais jamais vues ailleurs, notamment un décompte de compteur. Donc, la première fois, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un compteur qui tourne, et puis à un moment, ça s'arrête, et bam, la personne qui est à l'écran meurt, se fait abattre. C'est la période où c'est une espèce de guerre civile. Voilà. Enfin, bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Après, mon deuxième coup de cœur, c'est un film sorti donc, en début d'année. C'est Le Dain. Donc là, c'est un court-métrage, il fait qu'1h15. Film de
Quentin Dupieux.
Film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et Adèle Haenel. Alors l'histoire, c'est Georges quitte tout, il prend la route et a rendez-vous avec une personne pour s'acheter une veste en daim. Et en cadeau, il reçoit un caméscope. Il reste dans la... Enfin, on ne sait pas trop où il est, en fait. C'est ça que j'ai aimé, en fait. Donc il dort à l'hôtel et va passer sa soirée au bar. Et il est persuadé qu'avec sa veste, il est le plus classe du monde, et que tout le monde le remarque, alors que pas du tout. Et avec son caméscope, il se fait passer pour un réalisateur hors pairage, et il arrive à plus ou moins draguer gentiment Adèle Haenel, qui, elle, n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans le monde du cinéma. Donc le film est bref et intense, alors on perd pas de temps en explication. C'est ce que j'ai aussi aimé, moi, c'est cette espèce de... d'autoroute en fait.
D'instantané.
Ouais, ça fonce. Et par contre, alors, la fin, tu l'as vu, non ?
Non, je ne l'ai pas vu.
Et la fin est d'une violence, mais alors je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai même eu un peu des fois des relents de Shining, alors bon, il neige, c'est d'accord. La montagne, non, mais il y a beaucoup de plans qui m'y ont fait penser. Donc okay. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. De toute façon, je vous conseille tous les films de Dupieux, pour faire simple.
Et le troisième ?
Et en fait, le troisième, c'est Le Chant du Loup. Alors lui, c'est encore plus en début d'année. C'était le fin 20 février.
Non, il n'y a pas de loup dedans, en fait.
Donc c'est mince.
Il n'y a pas de loup dedans.
C'est rien à voir.
Mince.
C'est un film donc, d'Antonin Baudry. C'est son premier film. Avec donc, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Omar Sy et François Civil, donc du beau monde.
Alors, que des gens pas connus.
C'est ça. Je vais tenter de vous le résumer, mais c'est pas... Ça va pas être facile.
Attends, je vais te le résumer. C'est un film qui se passe dans un sous-marin.
Voilà, c'est ça.
Voilà, voilà. Merci, au revoir.
Donc, sous ce scénario de série B, en fait, se cache un super film. Moi, j'avais pas vraiment envie de le voir parce que j'avais vu une bande-annonce et je me suis dit, mon Dieu, on va se retrouver dans une pub pour le recrutement de l'armée française. Et pas du tout. Alors, peut-être que ça en est. Mais moi, je l'ai pas ressenti, en tout cas. Et c'est un film que je trouverais... Alors, c'est un film de gros plans, hein, parce que les sous-marins ne sont pas connus pour leur surface habitable.
Bah, c'est aussi un film, à mon avis, de... Comment dire, de huis clos, quoi.
Ah bah, tout à fait, oui, tout à fait. Et alors, à la sortie du film, j'avais entendu des critiques qui disaient que le film était un peu didactique. C'est peut-être vrai, mais bon, en attendant, moi, que ce soit les termes Le Chant du Loup ou Une Oreille d'Or, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, moi, ça ne m'a pas gêné, ce côté un peu explication.
Bah, c'est peut-être bien, surtout si tu ne connais pas. Quoi.
C'est
si
ça,
tu connais
c'est
rien,
ça. Moi,
tu connais
ça m'a, rien. Moi, ça ne m'a pas gêné. Et en fait, c'est un film qui m'a... alors, j'aime aussi le cinéma pour ça, qui m'a donné envie de me renseigner sur les sous-marins. Alors, bon, pourquoi je ne connaissais rien du tout. Donc, j'ai vu d'autres films de sous-marins. Je fais une petite aparté, je vous conseille le film allemand de 89 qui s'appelle Das Boot, qui est excellent, mais alors il est angoissant au possible. Et j'en ai fini aussi par aller visiter moi-même un sous-marin, en fait, à Cherbourg. On peut visiter un sous-marin nucléaire. Et franchement, c'est aussi ce que j'aime dans le cinéma, moi, c'est quand je sors du média pour aller sur d'autres pistes et découvrir des choses qui m'étaient totalement inconnues. Donc, mais franchement, regardez-le, l'ambiance est vraiment bien, bien foutue.
Parle-nous rapidement de tes flops, s'il te
plaît. Ouais, ça va être un peu...
C'est pour dire du mal, tu peux aller vite.
Ouais, non, mais je vais aller vite, hein, parce que c'est un peu toujours la même chose. Donc c'est Mathias et Mathieu de Dolan, c'était son dernier film où j'ai pas retrouvé la patte qu'il avait dans ses précédents films. Alors j'ai vu qu'il avait tenté de faire de nouvelles choses, mais bon, on va dire qu'il se réserve pour le prochain film.
Non, mais voilà. Ou alors il a tout donné au précédent.
Bah, je sais pas, mais là, ouais, non, voilà. Après, Joker... je comprends toujours pas le succès.
Oui,
de
ce tu film. Nous en as déjà
ouais,
parlé.
Non, mais
donc...
Et encore maintenant, j'ai creusé, j'arrive toujours pas à comprendre.
Peut-être que tu creuses de trop. En fait.
Peut-être, non, mais c'est ça, il faut que j'arrête.
Tu réfléchis
trop.
Tu vas finir par trouver
ça.
Du pétrole. Hein, si tu continues à
tu intériorises trop, peut-être.
Il faut que j'arrête d'intellectualiser quand je vais au cinéma. Et enfin, le dernier, c'est le J'accuse de Polanski. Parce que j'ai pas du tout aimé la mise en scène. Enfin, le film, il a des moyens. Mais c'est un film de bureaucrate, en fait. C'est des portes qui claquent, c'est des. Voilà, il n'y a pas grand chose. Alors, moi j'attendais beaucoup du scénariste en fait, qui était le même que Ghostwriter, où là je trouvais qu'il y avait une angoisse. Le film m'a pris du début jusqu'à la fin. Alors, après, peut-être ce qui n'a pas marché sur J'accuse, c'est qu'au final, c'est rare les films qui racontent des faits français. Donc, comme c'est notre histoire, ben, on la connaît. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de suspense ou il y a moins de découvertes que quand on nous raconte une histoire américaine inconnue. Donc voilà, j'ai été un peu déçu. Peut-être qu'effectivement, s'il m'avait raconté une histoire...
Bah, surtout que c'est une histoire très très connue en France. On nous la rappelle souvent, on nous en reparle souvent. Donc c'est vrai que c'est une histoire qu'on connaît. C'est un fait divers très connu.
Ouais, et puis peut-être que là où il y a eu un souci aussi, c'est que le scénariste est anglais. Et donc lui, ça lui a peut-être
parlé.
Ça lui a peut-être parlé ce côté de bureaucrate en fait. Moi, je sais que quand j'ai toujours entendu parler de cette histoire, c'était toujours. Il paraît que la France était déchirée en deux. Enfin, il y avait les pros, les contres. Et le film, à part une ou deux scènes, voilà, le film le montre pas du tout en fait. Donc, c'est des jolis décors, c'est des bons acteurs. Hein, là-dessus, je reviens pas dessus, mais voilà, je me suis franchement ennuyé.
Ok. Eh ben, on va passer sur une petite pause musicale. On va écouter Burning Love, chanté par Woody Harrelson dans le film Zombieland Double Tap. Fight. Nous revoici dans les top flops de l'année avec Mickaël qui va nous faire son top flop.
Alors qu'on va commencer avec les tops, parce que les tops c'est cool, c'est top.
C'est top.
Lol. Bref, on va commencer avec Avengers Endgame.
Dans tes tops ? Tu t'es pas trompé de case ?
Ouais, dans mes tops, oui.
T'es sûr ?
De Joe et Anthony Russo. Oui.
Ah, ils sont deux ?
Oui, ils sont deux. Ouais. Ils sont
deux à avoir commis ça ?
Et oui, bah j'aime bien l'univers Marvel. Il y a voilà, je confesse et j'assume. Bon, c'est le 22e film. Je crois que je vais pas m'embêter à résumer l'histoire parce que de toute façon, soit vous avez vu le film et vous la connaissez, soit vous avez pas vu le film et vous avez aucune envie de le voir.
Et puis clairement. En plus, c'est le film qui termine la série, donc si t'as pas vu tous les autres, t'as aucun intérêt.
Moi j'ai fait, moi je l'ai vu, j'ai pas vu les autres.
Pas tous, franchement. Bah, voir le précédent, le Avenger 3, oui, quand même. Mais franchement, t'es pas obligé de regarder les 22 films. Tu peux très bien comprendre l'histoire, même si t'as pas vu les 22 films, si t'as suivi le truc de loin. Okay. Après, c'est sûr que si t'as tout vu, tu pourras apprécier davantage
de subtilité.
Voilà, c'est sûr. Que dire de ce film ? Bon, bah voilà. En tant que fan de Marvel, j'ai eu mon petit moment d'émotion. Le chapitre de clôture d'une aventure qui a commencé il y a 12 ans, qui a débuté avec le premier Iron Man et qui se termine avec lui. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle.
Il meurt.
Spoiler. Le film est divisé en trois parties. La première partie très réussie, très mélancolique. Atmosphère pesante qui colle parfaitement avec la fin du film, avec la fin du film précédent, pardon. Là-dessus arrive le MacGuffin, l'argument prétexte pour faire avancer le scénario qui pose les enjeux. La deuxième partie est certainement la moins réussie parce que je trouve qu'elle désamorce complètement les enjeux au profit de l'humour. Et bon, la troisième partie classique de la bataille, grosse bataille finale de super-héros, que bon, bah voilà, c'est cliché, mais on aime bien quand même. Voilà. Donc voilà, Avengers Endgame, très bon divertissement, probablement le meilleur blockbuster de l'année, dans une année où beaucoup de blockbusters se sont ramassés méchamment. Voilà. Voilà pour Avengers. Ensuite, Parasite de Bong Joon-ho. Bon, la Palme d'Or très populaire qui a fait 1,7 million d'entrées, je crois, en France, qui est très 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 bien pour un film coréen.
Oui, hein,
pour une Palme d'Or.
En plus, pour une Palme d'Or, je ne sais pas combien avait fait Pulp Fiction à l'époque.
Il avait fait
pas mal aussi. Hein.
Enfin, Pulp Fiction, bon.
Mais c'est américain.
C'est une Palme d'Or.
C'est pas asiatique déjà.
Ouais,
ça aide un peu.
Non, mais attends, à l'époque, personne ne le connaissait. Non, parce que genre, c'est que ça remonte. Hein.
Ah oui, mais personne ne le connaissait, mais c'était quand même un film américain.
Ouais, c'est vrai. Alors, toute la famille Kitek est au chômage et s'intéresse fortement à le train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils se fait recommander pour donner des cours d'anglais particuliers chez les Park. C'est le début des ennuis. Et je n'en dis pas plus pour pas gâcher le film. J'en ai déjà parlé, ce film-là est absolument génial. Il a un côté très très hybride, il mélange plein de choses, la satire sociale, la tragicomédie, la comédie sociale, la comédie noire, des passages qui font thriller, le film de maison, quelquefois ça part dans le huis clos, sans sortir de son sujet, franchement c'est un tour de force. Allez le voir.
Oui, point, vraiment, vraiment.
Allez le voir.
C'est une recommandation très forte.
Voilà, partagée par les trois membres de l'équipe, je crois.
Non, aucun commentaire, Antoine.
Aucun commentaire.
Faudrait que je le revoie, moi.
Juste pour
le défoncer.
Non, pas pour le défoncer, mais je l'ai vu, tout le monde l'encensait. Donc moi, je m'attendais à avoir un peu une espèce de gros chef-d'œuvre, tu vois. Et puis je me suis fait, ouais, c'est bien, mais donc je pense qu'il y a plein de trucs. Maintenant que la pression est retombée.
Qu'elle a hyper tombée. Ouais,
il faut que je le revoie tranquille.
Bah, moi, je l'ai vu quand la pression est retombée. Déjà.
Ouais, non, mais.
Et donc le troisième film sera un film Netflix, il est sorti très récemment, c'est Marriage Story de Noah Baumbach. Alors de quoi ça parle ? Un metteur en scène de théâtre incarné par Adam Driver et sa femme comédienne Scarlett Johansson se débattent dans un divorce qui traîne et qui va les pousser dans leur retranchement respectif. Bref, ça va partir en sucette. Et non, rassurez-vous, personne ne meurt dans ce film.
C'est dommage.
C'est un film de divorce, c'est pas un film de guerre.
Mais tu peux quand même tuer des gens dans un film de divorce.
Oui,
pas le problème.
Mais là, pour le coup, ça serait discordant. Ce film, et j'en suis assez surpris, a été ultra plébiscité par le public et par la critique. Il est en course pour 6 Golden Globes. Je suis assez surpris qu'un film comme ça soit aussi plébiscité. Alors moi, personnellement,
pourquoi
j'ai adoré.
C'est quoi qui te surprend ?
Comment ?
Quand tu dis un film comme ça, c'est quoi qui...
Parce que c'est un film qui a pas vraiment de prétention, en fait. C'est pas un film où quand tu le vois, tu te dis c'est un rôle à Oscar, c'est un rôle à Golden Globe, c'est un voilà,
ouais,
c'est pas ce genre
c'est
de
pareil,
truc.
Je sais pas ce que ça veut dire ça aussi, mais
Joker, que... Joaquin Phoenix, c'est un rôle à Oscar, clairement. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Moi ce film j'ai adoré. Je vais l'avouer devant vous, j'ai pleuré devant. Franchement, il m'a
tiens, un mouchoir.
Merci. Il m'a bouleversé ce film, franchement. Il prend le parti de raconter un divorce sans prendre de position d'un côté ou de l'autre, sans donner raison à l'une ou l'autre des parties. C'est franchement très intelligent.
C'est juste, ouais. C'est pas caricatural.
C'est pas caricatural, c'est très intelligent au niveau de l'écriture. Ça prouve une bonne fois pour toutes aux mauvaises langues que Adam Driver comme Scarlett Johansson, même s'ils se font davantage connaître dans les gros blockbusters Disney, un avec Star Wars, l'autre avec les Marvel.
Encore Adam Driver, c'est pas vraiment, parce qu'il fait quand même plein de films à côté de Star Wars.
Oui, mais c'est avec Star Wars qu'on l'a connu. Moi personnellement, Adam Driver, j'avais jamais entendu parler de lui avant Star Wars.
Je le connaissais dans Girls, la série, mais.
Ouais, bon, et clairement, ils sont. Enfin, moi personnellement, ça m'a réconcilié avec Adam Driver, parce que Adam Driver, dans tous les films que je l'avais vu, je l'avais trouvé mauvais. Et là, franchement, il remonte dans mon estime, mais énormément. Bon, Scarlett Johansson, je savais que c'était une superbe actrice, et
je
le prouve encore.
Franchement
voilà, c'est un film que je peux juste vous conseiller de voir. Alors attendez-vous pas à rire, mais franchement regardez-le, c'est mon coup de cœur émotionnel de l'année, clairement.
Et tes flops ?
Et mes flops. Alors, on va commencer avec Une fille facile de Rebecca Zlotowski, qui a été présentée pendant la quinzaine des réalisateurs à Cannes.
Et c'est toi qui n'es pas facile, là.
Non. Alors, c'est le film dont tout le monde a parlé parce que la réalisatrice, elle avait embauché Zaya.
C'est ce film-là.
Voilà. Alors, de quoi ça parle ? Naïma, 16 ans, vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sophia, Zaya, au mode de vie attirant, entre guillemets, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable. Alors, sur le papier, ça envoie du rêve. Mais ce film est mauvais. Je me suis ennuyé. Il dure 1h40. J'ai l'impression qu'il durait 3h30. J'avais l'impression de voir The Irishman.
Ça, c'est la longueur ressentie.
Non, mais c'est horrible.
C'est un peu comme les températures ressenties, mais en longueur.
Alors, on va tout de suite briser quelque chose qu'on pourrait légitimement se demander. Zaya est une très mauvaise actrice. Voilà. Il y en a que ça surprend pas.
C'est son premier film. Elle n'a jamais vu de cours. Je pense pas qu'elle ait eu de cours de théâtre.
Oh, c'est qui Zaya?
Ouais, mais il faudrait.
Elle sort d'où?
On y reviendra un autre jour.
Et le minot de tout le long du film, c'est insupportable. Le scénario est mauvais au possible. Je peux me tromper, mais pour moi, les personnages doivent avoir une histoire, doivent changer un petit peu, doivent apprendre quelque chose dans le film. Ils doivent pas rester statiques. Et ben là, rien. Les personnages n'apprennent rien. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Elles restent tout au long du film des filles superficielles qui, franchement, je me sentirais insulté si j'étais une femme. Franchement, s'il y a une morale dans ce film, j'aimerais bien qu'on vienne me l'expliquer parce que j'ai toujours pas compris.
Trouvé.
Même Benoît Magimel, qui est franchement le seul qui s'en sort à peu près dans ce film, il y a des plans où on a vraiment l'impression qu'il se demande ce qu'il fout là.
Il n'est pas à sa place.
Catastrophe. En deuxième flop, My Beautiful Boy de Felix van Groningen. Alors de quoi ça parle ? Pour David Sheff, la vie de son fils Nicolas est toute tracée. C'est un jeune homme brillant, sportif, vif, cultivé. Et un jour, il commence à toucher à la drogue. Pas bien. De consommateur occasionnel, devient accro. Et David, son père, va tout faire pour sauver son fils. Alors le souci de ce film, il est à un autre niveau. Il est au niveau des partis pris. scène larmoyante sur scène larmoyante qui fait place à une autre scène larmoyante. Et moi, ça me saoule. J'ai horreur qu'un film il me dit vas-y pleure, c'est... vas-y pleure, mais pleure, tu vas pleurer, oui. Les films Marc-Olivier Fogiel, tu vois, ça me gonfle ce film-là, c'est une horreur. Timothée Chalamet joue une vraie tête à claque, j'avais envie de le baffer tout le long du film. Steve Carell est impeccable, sans trop forcer. Mais ça suffit pas pour sauver le film. La mise en scène est ultra bateau, le scénario est cliché au possible, ça dure 2 heures, mais là, pareil, en temps ressenti, on est sur du double, ça tourne en rond. Bon, bref, passez votre chemin. Hein. Et enfin,
le petit dernier.
On va toucher le fond, là, avec AI Rising de Lazar Brodozza, qui est sorti sur Amazon Prime. Alors, de quoi ça parle ? Alors oui, parce qu'il y a une histoire. Enfin, le cosmonaute Milutin est envoyé en mission sur une planète lointaine. Pour l'accompagner dans son voyage, la société Edelerzi Corporation lui adjoint une androïde à l'apparence humaine qui s'appelle Nimani. Et là, en relisant le synopsis, je me dis, purée, mais ça sonne vachement bien ce truc. Un scénario d'androïde exploité par les êtres humains, oh c'est cool, qui finit par se rebeller. Bon, c'est revu, mais c'est cool. Le film dure 1h30 et la moitié du film, et je ne me moque et je ne déconne même pas, c'est que des scènes de sexe.
De viol même.
Oui, de viol, enfin de sexe, mais des scènes de viol, oui, carrément. C'est juste malaisant. J'ai été en mode malaise tout le long du film et j'ai quand même regardé jusqu'au bout en me disant, il y a bien un moment, quelque chose qui va me dire pourquoi ce film existe. Et non, j'attends toujours, en fait. Franchement. Et ensuite, j'ai fait des recherches sur ce film, ce qui est plutôt difficile parce que, mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'occurrences sur Google.
Il n'y a pas grand-chose à dire.
Voilà, c'est pas terrible. Et en fait, l'actrice qui joue l'androïde Nimani, c'est une actrice du porno.
Oui.
Et là, du coup, j'ai compris pas mal de choses dans ce film, en fait. J'ai compris qu'on m'avait arnaqué. C'est moche. Ça essaye de faire des espèces de plans à la 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais c'est moche, c'est laid, c'est sexiste, tout ce que tu veux d'un. Mais à un point que c'en est gênant. Je me demande comment un film a fait pour sortir à l'époque post-MeToo, tellement que c'est malaisant. Le twist du film est pourri, la fin est ratée. Fuyez, pauvre fou.
Ah, je serais pas aussi méchant, mais vraiment, il a vraiment peu de choses pour lui. Le seul intérêt qu'il y a, c'est la relation entre ces deux personnages-là. Mais ces deux personnages ont pas grand intérêt. Au départ, il est violent parce qu'il est violent et puis parce que la situation est globalement violente, puisqu'il se retrouve de nouveau dans une navette, alors qu'il l'a déjà fait seul pour un voyage plus court. Mais c'est une relation d'un mec qui a la possibilité d'être violent avec quelqu'un qui est sur quelqu'un à partir du moment où il va avoir aucune répercussion.
Mais il a même pas besoin puisqu'il a une tablette qui contrôle les réactions de l'androïde. Donc il en fait ce qu'il veut et c'est ça qui est malaisant dans ce film en fait.
Et puis au fur et à mesure il pète les plombs parce qu'il est tout seul et puis parce qu'il a un jouet en fait et c'est son jouet.
Mais c'est juste un gros tut.
Et c'est aussi un gros tut. On est d'accord.
C'est quoi un gros tut?
C-O-N-N-A-R-D.
Ah, un connard.
Voilà.
On va enchaîner sur une petite musique avant que je fasse mon top flop, parce qu'il n'y a pas que mes deux comment dire, chroniqueurs habituels qui vont pouvoir faire ça, avec Kickstart My Heart de Motley Crue pour le film The Dirt, qui raconte leur vie, et c'est vachement bien comme film, je vous le conseille. nous revoici à Je vais au ciné. On se retrouve pour les top flops de 2019.
De toi-même.
De moi-même.
Alors Seb.
Alors moi en premier top, je vais mettre Parasite. Alors moi je le mets en tout en haut de la liste parce que vraiment Parasite c'est un oignon qu'on épluche tout au long du film. C'est jusqu'au moment où on arrive au cœur et c'est un feu d'artifice.
Tu pleures.
Et là tu pleures. Enfin vraiment il est bien construit ce film. Je l'aime beaucoup. Je vais pas en parler plus parce qu'effectivement mon cher ami Mickaël en a déjà.
Il a déjà ouvert l'oignon tout à l'heure. Alors on est déjà en pleurs. Donc voilà. On rajoute pas une
donc
couche.
On va pas en rajouter une couche. Je vais seulement dire que c'est de Bong Joon-ho. Voilà.
Bong Joon-ho.
Voilà, je vais passer au suivant. Destroyer de Karin Kusana avec Nicole Kidman. C'est un film où c'est une policière désabusée qui arrive sur un. Qui vient sur une scène de crime et qui est pas. C'est pas sa scène de crime, elle est pas chargée de l'affaire. Et elle vient regarder un peu et de là découle. Entre ce qu'elle a vécu ces derniers jours et des flashbacks d'événements passés, une relation entre ces deux périodes-là, en fait. Et on se rend compte que ce qu'elle a vécu dans le passé, dans ces flashbacks, a eu des répercussions ces derniers jours, qui m'ont amené à ce qui s'est passé et pourquoi, pourquoi il y a eu ce mort-là. Tout l'intérêt du film repose sur les épaules de Nicole Kidman. Nicole Kidman, elle est dans le film tout le long. C'est elle qu'on suit. C'est son histoire. C'est pourquoi elle en est là. C'est une femme qui est alcoolique, qui est dans un état lamentable. Tu vois qu'elle a les cernes. C'est une Nicole Kidman à peine reconnaissable, tellement elle est dans un. Enfin, vraiment dans un état déplorable, quoi. Elle est mince. Elle est. Enfin, vraiment. Voilà, tu vois même toutes les scènes d'action où elle a du mal, quoi. Physiquement, elle a du mal. Et ils l'ont bien fait, cette partie-là, où elle est censée quand même savoir se débrouiller. Même son coéquipier ne sait pas où elle est. Et il lui court après tout le long du film. Enfin, vraiment, c'est un film bien, bien fait et bien amené. C'est aussi une performance de Nicole Kidman qui est très, très forte dans ce film. Elle joue très, très bien. Je vais enchaîner sur Funan. Funan, c'est un film d'animation. Alors j'en ai déjà parlé, je vais en revenir très rapidement. Ça se passe au Cambodge au moment des Khmers rouges, où c'est une famille qui est déportée.
Je le vois celui-là.
C'est une famille qui est déportée, et puis on suit plus principalement la mère qui essaye de retrouver son enfant parce qu'ils sont tous séparés dans des camps différents. C'est certainement l'un des meilleurs films d'animation de l'année, si ce n'est peut-être le meilleur. Vraiment, et c'est pas que moi qui le dis, dans les 100 premiers films de Metacritic, il est dedans. C'est le seul film que j'ai vu dans les 100 premiers de Metacritic de l'année. Et puis dans Rotten Tomatoes, il est pas dans les 100 premiers, mais je pense qu'il doit être bien classé aussi.
Bah c'est mieux, non ? De quoi Rotten Tomatoes quand les films ils sont pourris, non ? Donc vaut mieux pas être dans le classement, en fait.
Non, mais t'as les meilleurs films de Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, si t'es vraiment très très bas, t'as morflé. Par contre, si t'es très très haut, t'es plutôt bien classé.
D'accord.
C'est juste des sites de classement qui sont très connus. Donc c'est de Denis Do. C'est un film qui lui parle parce que c'est quand même il est d'origine cambodgienne. Il a connu cette période-là, ou en tout cas sa famille a connu cette période-là, peut-être plus que lui. C'est un très beau film d'animation. Alors, peu conventionnel dans son côté graphique, parce que c'est simple, sombre. C'est aussi une période très sombre, très compliquée. Et puis vraiment, ça peut vous tirer quand même des larmes. Pas parce qu'on vous les a tirées, mais vraiment parce que les scènes sont vraiment très dures. C'est un film difficile. C'est pas un film pour enfants. C'est vraiment un film pour adultes.
C'est un film intelligent.
Intelligent. Sans doute. On va passer Alors, je vais vous parler rapidement de Nevada, mais j'en ai déjà parlé. De Laure Clermont-Tonnerre avec Mathias Schoenhardt. J'en ai déjà parlé. C'est un très bon film sur un milieu carcéral et sur l'élevage de Mustang. Je vous le conseille, allez le voir. Et sur The Best of Enemies de Robin Bissell avec Taraji P. Henson et Sam Rockwell sur...
Enfin, je reviens sur le précédent film, tu as dit allez le voir. C'est Voyez-le, parce qu'il est plus à l'affiche. Hein.
Oui, mais allez le voir, on s'en fiche, même Voyez-le, ou peu importe, où vous allez le voir.
Débrouillez-vous, regardez-le.
Débrouillez-vous. The Best of Enemies, c'est un film où c'était à l'époque où les Noirs et les Blancs avaient un peu de mal à se... Comment dire ? À vivre ensemble, surtout dans cette ville-là. Alors après, je ne sais plus où ça se passe exactement, mais l'école pour élèves noirs brûle. Et une grande partie de l'école a brûlé. Et comme personne veut juger le truc, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, le maire ne veut pas, enfin personne ne veut, même le juge ne veut pas, il trouve une solution, c'est de dire, bah, on va faire une réunion avec, pendant 10 jours où on va réunir toutes les communautés et vous allez discuter et trouver le moyen pour que tous les élèves aillent à l'école de façon le mieux possible, quoi. Où on met tous les élèves dans la même école, où on trouve une autre solution, mais il faut qu'on trouve une solution. Et donc pendant 10 jours, tu vas voir la présidente qui est une militante black qui défend les personnes noires. Et en face, tu as un raciste, clairement, qui fait partie des chapeaux blancs, vous voyez, avec la belle cagoule qu'on voit partout. Les KKK. Et donc, il y a cet affrontement. Ils n'ont pas envie, ni l'un ni l'autre, d'être l'un en face de l'autre, de faire ces réunions-là. Et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître. Ils vont apprendre, pas forcément à s'apprécier, mais en tout cas à se respecter, puisque l'un et l'autre, ils sont obligés d'être dans ces réunions-là avec d'autres personnes. Lui, on l'a obligé parce qu'effectivement, le maire de la ville l'oblige à le faire. Et elles sont obligées parce qu'elle veut défendre ses enfants qui faut qu'ils aient une école, quoi. Tous ses enfants, dont les siens, il faut qu'ils aient une école. Donc ce film est plutôt bien fait. Je crois que c'est un film Netflix. C'est tiré d'une histoire vraie, mais ce film est bien construit, bien fait. Je ne sais pas s'il est proche de la réalité, mais en tout cas, il est beau, il est, voilà, il n'est pas juste un affrontement entre deux personnes avec des discussions. Il passe toutes les parties qui peuvent être un peu longues, un peu pénibles. Voilà, c'est plutôt un bon film. On va passer sur les flops. Alors dans les flops, on va parler de Cold Blood Legacy, La mémoire du sang. Alors j'en ai déjà parlé.
J'en ai déjà parlé dessus.
Ouais, de Frédéric Petitjean avec Jean Reno et Sarah Lynde. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans ce film, globalement. Le scénario est pauvre. On ne va pas dire inexistant, mais pauvre. Il n'a pas grand intérêt, il n'explique pas grand-chose. Il y a des problèmes dans la réalisation, il y a des problèmes dans le scénario, même dans les jeux d'acteurs, des fois, il y a des problèmes. Ce qui tient à peu près le film, c'est Jean Reno. Le reste, c'est pas terrible. C'est pas le meilleur film de Jean Reno, loin de là. C'est pas forcément le pire, mais c'est pas le meilleur, en tout cas. Puis voilà, pas grand chose à en dire. C'est un premier film de Frédéric Petitjean, mais bon, j'espère qu'il fera mieux.
On attend impatiemment le deuxième.
Il fera peut-être mieux le prochain coup. Lisez l'oiseau bleu de Naoko Yamada.
Tu parles de livre là ?
De quoi ?
De livre ?
Non.
Tu dis lisez l'oiseau bleu.
Non, lise et l'oiseau. Oh là là.
Excusez-moi, je me réveille tous les quarts.
Alors, dans une précédente émission, Mickaël, on nous en avait parlé.
Où ça va clasher ?
Et j'ai failli pas aller jusqu'au bout, tellement il était mauvais ce film, mais il est mauvais. Alors, c'est pas le problème que ce soit un film d'animation, moi j'adore ça, c'est pas le problème que ça parle de musique, même si effectivement on en voit très peu de musique, on voit juste des adolescentes causer. Et il y a une relation entre deux adolescentes, et puis c'est tout. Il y a rien dans ce film, même le moment où il pourrait avoir un peu de musique, il y en a pas. On se fait chier. C'est juste des discussions de gamines, adolescentes. On s'emmerde, vraiment. J'ai vu des films d'animation sur la musique qui étaient bien meilleurs que ça. Tu prends Piano Forest ou La Chorale, c'est bien meilleur. Mais celui-là, il est pénible.
N'oublie pas les choristes.
Non, pas les choristes. Là,
C'est pas d'animation.
C'est pas de l'animation.
Je me rends compte que j'ai aucune culture cinématographique, c'est fou. Dès que si t'as un film, je le connais pas.
C'est des films d'animation japonais, c'est très particulier. La Chorale, c'est... C'est un petit milieu, faut pour le connaître. Après, Piano Forest, c'est aussi un petit milieu qu'il connaît. Donc, c'est pas terrible. Franchement, moi, je vous le conseille pas. J'ai failli m'arrêter en plein milieu. C'est vraiment parce que Mickaël en avait parlé que je suis allé jusqu'au bout pour voir s'il y avait vraiment quelque chose au bout. Moi, j'ai pas été déçu. La fin, même Mickaël a essayé de me l'expliquer au point que je comprenais rien.
Il est bien.
Non, il est pas bien.
Monsieur, il est bien.
Vas-y, Mika, qu'est-ce que t'as à dire sur ta défense ?
Je vais finir avec Sibyl de Justine Trier, avec Virginie.
Mais toi, t'as fait un top 3 qu'à 12 films, non, j'ai l'impression.
Non, mais non. Ça, c'est les flops. Avec Virginia Efira et Adèle Exarchopoulos. Sibyl.
T'en as déjà parlé aussi.
Ouais,
Sibyl.
C'est nul.
Voilà.
C'est nul. Et puis, alors, Justine Trier, son précédent film, c'était pas terrible.
C'était quoi?
C'était, j'ai oublié, c'était pas extraordinaire non plus. Je l'avais vu, mais j'ai trouvé ça pas trop mal. Mais là, j'ai l'impression de revoir Reddit, en moins bon en plus.
Reddit ?
Refait, quoi. Même chose. Et c'est pas terrible, quoi. C'est pas bon. Et ça a aucun intérêt, ça raconte pas grand chose. Les personnages sont pas intéressants. Le jeu d'acteur est pas extraordinaire. Il est pas mauvais en soi, mais rien que les personnages sont pas intéressants. Donc le jeu d'acteur, on s'en fout en fait.
C'était pas son précédent film, c'était pas déjà avec Virginie Efira.
Bah si, justement. Si. C'est pour ça que je dis c'est un peu
c'est
un
rêve. Victoria ou un truc comme ça.
Victoria, là, voilà. Et qui était pas déjà extraordinaire, mais là, c'est pire. Donc là-dessus. Je vais vous dire, on va s'arrêter là-dessus parce que on a fait des trucs mauvais, on a fait des trucs bons.
C'est bien qu'on termine par le meilleur.
Non, mais c'est bien aussi de dire du mal de films, c'est toujours sympa. J'ai fait un petit bilan, moi, de ce que j'ai vu cette année. J'ai vu 118 films. Alors, je ne sais pas si vous avez compté le nombre de films que vous avez vus cette année.
Alors, absolument pas. Tu t'ennuies dans la vie ou comment que ça se passe?
Mais non, mais moi, j'ai au moins 118 films parce que j'ai un compteur de films. C'est-à-dire que j'ai une application qui me permet de savoir quel film j'ai vu, à quel mois je l'ai vu. Et voilà, ça me permet de faire un petit bilan régulier de ce que je regarde comme film. Bon, là-dedans, il y a quand même assez peu de films de 2019.
Je pense que j'en ai pas vu...
J'en ai pas vu 118, ça c'est sûr.
Je fais aller un film par semaine au ciné, donc ça fait déjà 52 films.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas.
Ouais.
Je suis déjà à moins de 50.
Ouais. Non, mais il y a des semaines où tu en regardes plus d'un. Ça compense.
Ouais, mais non, mais je suis.
Donc voilà. Bon, on va terminer là-dessus. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine.
Bonne année.
Jour, même heure. Le lundi à 14h. Et puis. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, puis si vous ne l'êtes pas,
bon courage.
Bon courage, oui, parce que c'est pas drôle.
Et puis, dit-il en rigolant.
ce sera mon cas.
Sadique.
Au revoir à tous.
Allez, bonne année à vous.